et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Le vieillissement de la population, c'est un enjeu qui nous touche toutes et tous, de près ou de loin. La durée de vie s'allonge, les soins de santé s'améliorent, mais en parallèle, le montant des pensions est en baisse et la population âgée se paupérise. Être senior aujourd'hui n'a plus la même signification qu'hier, et pourtant, on leur donne encore une place limitée dans la société. Quel est l'impact du vieillissement de la population sur les services de première ligne, les maisons de repos, l'aide à domicile et les pouvoirs locaux? Faut-il revoir ces services? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui, André Poquet. Madame Poquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes formatrice en santé communautaire et également administratrice du service laïque d'aide aux personnes. Avec nous également Geneviève Roger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicienne et conseillère laïque à l'hôpital Saint-Luc notamment. Et enfin, Nicolas Bourgault, membre de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Vous travaillez notamment sur ces questions du vieillissement. Alors, monsieur Bourgault, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai envie de commencer par vous. Dans le cadre d'une journée d'études que vous préparez, au sein duquel vous avez posé un diagnostic sur la question du vieillissement, et c'est un diagnostic qui n'est pas nécessairement tout rose.
Alors, comme vous venez de le mentionner brièvement, quand on s'intéresse aux personnes âgées et à leur choix de vie, on se rend très vite compte que cette notion de choix est conditionnée, entre autres par toute une série de faits qui viennent restreindre considérablement la latitude décisionnelle des seniors. Vous avez parlé d'allongement de la durée de vie et de perte d'autonomie qui va avec, et de diminution des revenus. On peut aussi ajouter le manque de places en maison de repos et soins, et le coût très élevé de ces places. On peut aussi parler du fait que les infrastructures qui existent ne sont pas toujours adaptées aux besoins spécifiques des personnes âgées, et qu'on trouve assez peu de structures alternatives. Par ailleurs, le domicile dans lequel vivent les personnes âgées est souvent inadapté, et le maintien à domicile peut devenir assez vite insoutenable pour les proches ou les aidants proches, dès lors que les personnes âgées sont dépassées par les tâches quotidiennes et que leurs problèmes de santé ne leur permettent plus de gérer de façon autonome leur vie. Il faut aussi insister, et c'est ce qu'on va faire à l'occasion de cette journée de recherche, que l'espace public ne favorise pas la mobilité des personnes âgées.
Et donc, en fait, vous avez pointé ici plusieurs problèmes. Il y a peut-être une chose sur laquelle je voudrais revenir peut-être avec vous, Madame Roger, parce que vous rencontrez ces personnes au quotidien. C'est la question de la perte d'autonomie, la question de la solitude. C'est quelque chose que vous constatez, clairement?
Certainement. Les personnes qui restent chez elles sont souvent très isolées, souffrent de cette solitude et... Donc, ben voilà, ils sont en demande de contact qui se restreint souvent de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'il y a des initiatives, notamment, je travaille aussi dans une maison médicale et on a un programme qu'on a appelé le Club de l'Amitié et qui est un groupe qui réunit une série de personnes âgées du quartier. Et une fois par mois, on fait une réunion, une discussion, et je dois dire ça a beaucoup de succès. Alors, je rencontre aussi effectivement des personnes âgées dans le cadre de ma fonction de conseillère laïque à l'hôpital, mais je vais à domicile aussi, faire des suivis, pour parler avec les personnes, les aider dans quelques démarches parfois, des conseils. Le terme d'ailleurs de conseiller laïque n'est peut-être pas toujours très propre, parce que le conseiller, on s'attend à ce qu'il donne des conseils, alors que la fonction de conseiller laïque n'est pas de donner des conseils, c'est plus une écoute et une présence.
Mais du coup, effectivement, ces conseillers laïques, c'est organisé par le service laïque d'aide aux personnes dont vous êtes administratrice, Madame Poquet. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer brièvement en quoi consiste finalement ce service?
Donc le service est une association laïque qui dépend du Centre d'action laïque. Cette association existe depuis 25 ans. Elle organise l'assistance morale laïque dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins. Et on voit que de plus en plus, la demande se fait évidemment dans le cadre du domicile. Concrètement, depuis déjà les années 70, l'assistance morale laïque et religieuse s'inscrit dans un cadre tout à fait légal, qui est ce qu'on a appelé la circulaire de Zager. Et en effet, tout patient, toute personne en difficulté peut faire appel à un conseiller laïque, comme vient de le souligner Madame Roger, à l'hôpital, en maison de repos ou à domicile, au même titre que vous pouvez appeler un curé, un pasteur, un imam, etc. Donc, pratiquement, le conseiller laïque est le garant de nos valeurs laïques. C'est intéressant de voir en tant que laïque le pourquoi de l'intérêt que nous portons ici au vieillissement de la population. En effet, garantir la liberté, l'autonomie, malgré des situations de dépendance, voir comment on peut travailler avec et non pas pour dans la recherche de solutions, de stratégies, du vivre ensemble, et comment on peut penser ensemble toujours de nouvelles solidarités dans une logique intergénérationnelle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire autour de cette thématique-là, évidemment.
Mais c'est vrai que sur cette question peut-être de la liberté du choix, on voit que dans les maisons de repos, finalement, les personnes âgées n'ont pas nécessairement toujours le choix. On leur fixe des heures pour les repas, des heures pour le coucher, des heures pour la toilette. Et donc, cette liberté de choix, c'est peut-être là où la laïcité peut amener quelque chose aussi dans cette question du vieillissement.
Je pense qu'en tant que laïque, on peut déjà, comme le disait Nicolas, faire un diagnostic des difficultés. Indépendamment de faire le diagnostic, je pense qu'il est important de le faire avec les résidents ici dans les problèmes que vous listez dans le cadre de maisons de repos, avec les personnes résidentes, mais aussi avec les équipes, de manière à ce qu'il y ait une conscientisation des besoins, des problèmes que chacun rencontre. Parce que la personne âgée, bien sûr, va vivre difficilement des repas à heures fixes, imposées, etc. Et puis, il y a évidemment le cadre institutionnel qui a ses propres réalités. Mais je pense que penser ensemble une gestion plus humaniste en tenant compte des réalités de chacun peut mettre un peu de bien-être chez chacun de nous.
Alors, c'est vrai que la seule question qui se pose, évidemment, quand on parle de vieillissement, mais c'est une question sur laquelle vous avez travaillé plus particulièrement ici au sein du CAL et du service laïque d'aide aux personnes.
Le SLP et le CAL, on a travaillé ensemble depuis pratiquement 2 ans. On a organisé une journée de réflexion sur la qualité de vie des personnes âgées et donc sur le rôle de la communauté laïque. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec des personnes qui résidaient en maison de repos. On a même été les rencontrer l'année passée. On a fait plusieurs conférences dans les maisons de repos pour avoir justement la voix des usagers. On a organisé aussi des débats politiques avec le SLP pour avoir la voix du politique. Donc on s'est pas centré que sur les personnes en maison de repos. On a vraiment essayé de faire d'avoir une vue globale, et c'est aussi pour ça qu'on organise, comme vous l'avez annoncé au début, une journée de recherche sur les personnes âgées qui vivent à domicile.
Oui, alors, et quand vous êtes allé trouver ces personnes en maison de repos, qu'est-ce qu'elles vous ont dit finalement? Quels sont leurs besoins, leurs inquiétudes? Vraiment, qu'en est-il à ce niveau-là?
Alors déjà, il y avait déjà une considération occupationnelle. Rien que le fait qu'on vienne, qu'on s'intéresse à elles, qu'on leur donne la parole, déjà, on voyait vraiment que c'était une demande de leur part. On voit qu'il y a des problématiques d'ordre, par exemple, respect de la vie privée. Ça peut aussi être du pratico-pratique, les repas. Il y a tout un panel de choses qui viennent. Par exemple, la question du respect de la vie privée en chambre, c'était quelque chose qui vraiment posait problème.
Je reprends tout à fait ce que Nicolas vient de dire, c'est tous des points qui ont été soulevés. Mais ce qui nous avait tous les deux interpellés, c'est combien ces personnes âgées disaient « Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'aller en amont. » Lorsqu'on se retrouve en maison de repos, le choix a déjà été posé. Donc si on avait eu un rôle plus actif antérieurement, lorsque nous étions encore à la maison, nous aurions peut-être fait d'autres choix, ou peut-être on aurait posé le même choix, mais en s'assurant certaines garanties. Et c'est ainsi que notre réflexion s'est continuée, et on s'est dit, mais au fond, en effet, c'est assez frustrant d'aller interroger, de confronter sur les impasses dans lesquelles des personnes sont, pourquoi est-ce qu'elles y sont. On réalise souvent que ce n'est pas leur choix, qu'on les y a mis pour des raisons souvent tout à fait compréhensibles, de besoins de sécurité qui doivent être couverts, etc. Et c'est ainsi qu'en un second temps, on s'est dit, attention, on va travailler en amont, on va travailler au domicile pour que chacun, soit en vieillissant, puisse penser, donner sens à sa vie qui est confrontée à des problèmes de vieillissement, etc., de perte d'autonomie.
Oui, d'autant que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le diagnostic qui a été fait, on voit que finalement il y a une baisse de revenus, une baisse des pensions, il y a une paupérisation, et du coup il y a aussi un vieillissement de la population qui du coup va aussi avoir un impact, j'imagine, sur l'organisation de ces maisons-entrepôts. Peut-être Madame Roger, vous pouvez nous en parler sur finalement en quoi ces évolutions de la question du vieillissement vont avoir un impact direct sur les maisons-entrepôts. Est-ce que le manque de place peut-être
Mais il y a effectivement un problème quand une famille est face au placement d'une personne âgée, d'un parent âgé. Il y a tout un parcours du combattant pour trouver une place dans un home qui est correct. Il y a un manque de place, effectivement. Et une fois qu'on a trouvé la structure adéquate, c'est vrai qu'il y a aussi un problème au niveau du personnel dans la structure. Il manque de personnel. Les familles s'en plaignent, les résidents s'en plaignent. Et donc, c'est vrai que la vie change complètement pour le résident une fois qu'il se trouve en maison de repos. Comme on disait tout à l'heure, on revenait sur la perte d'autonomie. Pour moi, l'autonomie et la dépendance, ce sont deux choses différentes, mais en même temps, on peut être autonome dans ses choix, de vouloir manger certaines choses à l'heure où on veut. Ça, c'est plus possible. Mais on peut être dépendant au niveau d'une aide matérielle parce qu'on ne sait plus marcher tout seul, etc. Mais donc, de toute façon, une fois qu'une personne entre en maison de repos, il n'a plus le choix. Il doit manger, comme disait André tout à l'heure, il doit manger à heure fixe, il n'a pas le choix de ce qu'il peut manger, etc. Donc, effectivement, là, il y a quand même un souci. Et nous, en tant que laïcs, comme l'autonomie est une valeur à laquelle on tient beaucoup, on aimerait que cette autonomie puisse être respectée dans ces maisons de repos, plus qu'elle ne l'est.
Ce que je voudrais rappeler, c'est que le bien vieillir ne touche pas essentiellement les personnes âgées en maison de repos. Les maisons de repos touchent une population très très limitée et de plus en plus âgée. Donc, je pense qu'il est vraiment grand temps, vu le défi sociétal qu'on rencontre, qu'on trouve des formules originales. Il est vraiment essentiel de devenir créatif. Alors, quand on est créatif, on se dit « oui, mais on n'a plus de sous, on est en pleine crise économique ». Je pense qu'il y a moyen de penser les choses sans spécialement devoir avoir des budgets incroyables. Je pense qu'il est grand temps de changer les mentalités. Pratiquement, la personne âgée de demain n'est plus la personne d'aujourd'hui. Ça sont tous des points importants. Et donc, vraiment, pour reprendre ce que disait Nicolas, je pense qu'il est vraiment grand temps de voir comment des politiques de proximité peuvent se centrer maintenant sur des politiques dites transversales. En effet, si on a une réflexion beaucoup plus analytique du logement, de la mobilité, des services de première ligne, etc. Je prenais un exemple tantôt. Si vous habitez un appartement de troisième étage sans ascenseur, eh bien vous êtes dépendant. Vous habitez le même appartement au troisième étage avec un ascenseur, vous reprenez votre autonomie. Ça n'a rien à voir avec votre état physique. Mais on voit combien, en améliorant le logement, en améliorant la mobilité, donc il n'y a plus de bancs publics, quel est l'impact? Vous ne savez plus faire vos courses en vous arrêtant. Mais c'est des détails. Mais si vous discutez avec les gens, en faisant du diagnostic de proximité, comme des expériences, par exemple, québécoises, ont beaucoup, beaucoup travaillé ce qu'ils appelaient le diagnostic promenade. On va avec les populations ciblées et on voit ce qui est difficile et on cherche avec eux des solutions. On réalise qu'ils nous demandent des choses parfois excessivement simples, c'est de mettre une poubelle au bon endroit.
Mais on va d'ailleurs revenir sur ces formules un peu créatives, sur ces diagnostics promenades. Mais avant d'y passer, je vous propose de faire une courte pause musicale en compagnie de Grand Corps Malade. Alors dans cette chanson, Midi 20, l'artiste aborde le temps qui passe et décrit sa vie sous forme d'une journée. On l'écoute.
Thank you. suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y'a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir teubé. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y'a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport. Emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencarts. Putain, la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart. Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible. Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible. Il fait chaud et tombe souris, il manquait plus de choix amoureux. C'est arrivé sans prévenir, sur les coups d11h moins 2. Mais tout à coup, alors que dans le ciel, il n'y avait pas un seul nuage à éclater au-dessus de moi, un intolérable orage. Il est 11h08, quand ma journée prend un virage, pour le moins inattendu. Alors je tourne, mais j'ai la rage. Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité. Je me suis relevé, mais j'ai laissé un peu de mobilité. Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Cette fin de matinée est tout sauf une récréation. À 11h20, je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation. Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep. Et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep. J'ai pas que des séquelles physiques, je veux pas faire le Tommy. Mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie. J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec et mat. Mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat. À midi moins le quart, j'ai pris mon stylo bleu foncé. J'ai compris que lui et ma béquille pouvaient m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume. Et dans l'obscurité, j'avance au clair de ma plume. J'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs. Et j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. Il est midi 19, à l'heure où j'écris ce contexte. Je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte. Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps. J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. C'est vrai que la vie est rarement un roman 18 tomes. Toutes les bonnes choses ont une fin, on ne repousse pas l'ultimatum. Alors je profitais de tous les moments qui me séparent de la chute. Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre une minute. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud. Il est déjà midi 20.
On vient d'écouter « Midi 20 » de Grand Corps Malade. Comme l'artiste le dit à la fin de la chanson, sous forme d'image, il lui reste encore 12 heures dans sa journée et encore tant de choses à découvrir. Alors les seniors aussi, il leur reste beaucoup de choses à découvrir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont trop vite exclus de la société? Madame Pequet, peut-être, est-ce qu'on doit revoir finalement la place qu'on leur donne dans la société?
Je pense qu'il faut revoir les images qu'on porte sur le vieillissement, mais je voudrais d'abord dire qu'il me paraît vraiment important de ne pas se focaliser sur des populations spécifiques, qu'ils soient vieux, handicapés, jeunes, travailleurs, chômeurs, etc. Je pense qu'une société est faite des multifacettes et qu'il est vraiment essentiel de travailler au comment vivre ensemble, dans nos fragilités, à nous tous. Et bien sûr, la personne âgée est une personne qui a ses fragilités. Au niveau du regard, ce qui me paraît vraiment important, c'est que nous sommes dans une société où la place à l'économie et à la production est très 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 importante. Lorsqu'on parle de la personne âgée, de qui parle-t-on au fond? On parle de quelqu'un qui a arrêté de produire de manière économique. Mais on peut aussi voir quels sont tous les apports sociétaux de la personne qui arrête de produire. Quelle est la place, par exemple, on parle de l'aide au niveau des aidants dits naturels. paix. En effet, dans une société où la femme travaille, où il y a des enfants, on constate que le rôle, par exemple, des grands-parents a beaucoup évolué dans cette génération. La place du volontariat, la place des bénévoles, voire le rôle de la transmission du savoir. On parle toujours du travail, mais le travail a énormément évolué en 20-30 ans. On n'a plus tellement besoin de force de travail physique. On réalise que le travail est devenu beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus technique aussi, et que donc le vieillissement des travailleurs permet aussi une transmission des savoirs et des connaissances. Donc ça sont des points importants. Maintenant, l'image qu'on a de la personne âgée, il faut faire attention à des images qui sont beaucoup trop manichéennes. Hein, c'est un peu, soit vous êtes la personne âgée hyperactive, à la limite qui ferait du parachute, et soit vous êtes la personne tout à fait confuse, qui se trouve tout à fait dépendante dans une maison de repos à qui on doit assurer tous les besoins de base. Je pense qu'il y a toute une fourchette, tout un panel à devoir redessiner et arriver à retravailler quand même une réelle gérontophobie. Hein, parce que bon, on est dans une société de production, je ne l'ai pas dit aussi, mais on est aussi dans une société de jeunisme où l'image, le corps est quand même très très cultivé évidemment.
Mais du coup, peut-être en travaillant sur la question, par exemple, de l'aide à domicile, ça pourrait peut-être permettre de changer en quelque sorte aussi l'image de ces personnes âgées, parce qu'elles ne sont plus automatiquement envoyées, on va dire, en maison de repos. Mais là, il y a peut-être un suivi à faire et un travail à faire au niveau de l'aide à domicile. Monsieur Bourgault, peut-être c'est là-dessus que vous allez travailler aussi dans les prochains mois.
C'est pas tellement sur l'image qu'on va travailler, on va essayer de travailler sur les mentalités. Mais ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est que les personnes âgées puissent avoir leur mot à dire dans les politiques qui vont être prises, dans les politiques d'aménagement des espaces publics et aussi, pourquoi pas, dans les services qui leur sont proposés.
D'autant que, pour revenir par exemple aux maisons de repos, on voit qu'il y a de plus en plus de maisons de repos qui sont privatisées, qui sont mises en bourse, ce qui pose d'ailleurs d'autres questions sur la question du financement finalement de ces maisons de repos. Pour vous, Madame Roger, ça pose vraiment un vrai problème, cette question de la privatisation, de la mise en bourse des maisons de repos ?
Oui, pour moi certainement. Je crois que ce qui me choque dans cette privatisation, c'est l'aspect justement argent. C'est que du fait que c'est coté en bourse, on a l'impression qu'il n'y a plus que l'argent qui compte. Et la personne en elle-même, le respect de la personne, on se demande où elle passe, où il passe, là, plutôt le respect. Et c'est de nouveau une rentabilité. La personne âgée n'est plus rentable, mais le home devient rentable. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange personnellement, certainement. Ouais.
Mais du coup, quelle formule est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui entre l'aide à domicile, les maisons de repos, un accompagnement et un changement de mentalité ? Quelles sont les formules sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui au sein duquel, au sein du service laïque d'aide à la personne ?
Je pense qu'il y a beaucoup de formules. Il faut déjà que les pouvoirs publics reprennent des responsabilités et ne délèguent pas tout au privé. Comme l'a dit André... il y a des choses très simples qu'on peut mettre en œuvre et qui permettent à une personne de garder son autonomie. Par exemple, on sait bien que beaucoup de personnes vivent à domicile, mais dans des conditions un peu précaires sur le point santé, de la sécurité ou des contacts sociaux. C'est pas très compliqué de remettre un peu du lien, de s'assurer la sécurité élémentaire. Enfin, il y a des choses à faire qui ne sont pas très très compliquées à mettre en place.
En accentuant peut-être les démarches intergénérationnelles aussi. Peut-être Madame Roger, puis après Madame Poquet.
Des habitats kangourous, hein. Il y a toute cette expérience d'habitation kangourou où il y a un plus jeune qui vit avec la personne âgée, ce qui fait un regard, une surveillance, en même temps une cohabitation, une relation possible. Il y a les expériences aussi des crèches qu'on met près des maisons de repos pour qu'il y ait aussi de l'intergénérationnel où les enfants viennent. Souvent, ces enfants privés de grands-parents, mais ils se trouvent des grands-parents dans la maison de repos. Enfin, ça, c'est de nouveau une maison de repos, mais c'est une ouverture d'esprit aussi. Mais comme disaient mes deux collègues, c'est vraiment une question de mentalité qui doit changer. On doit arrêter de penser la personne âgée ne sert plus à rien, on la case quelque part, et elle a encore certainement plein de choses à faire. Et par rapport aux générations suivantes aussi, effectivement, elles ont une culture, elles ont une histoire, elles ont des choses à transmettre. Et dans certaines autres cultures et civilisations, on voit bien que la personne âgée a un tout autre statut que chez nous. Et je trouve qu'on a vraiment des leçons à prendre de ces expériences-là, où le vieux, entre guillemets, a une position de sage. Et ça, je trouve que ça serait utile à adapter chez nous.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Pocky ?
Oui, en fait, bien sûr, on peut avoir des idées, on peut avoir des stratégies. Je pense qu'il est vraiment temps d'être créatif. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est d'arrêter de décider pour l'autre. Mmh. L'autre qui peut être la personne âgée ou l'autre qui peut être n'importe qui. Je pense qu'il faut vraiment arriver à travailler avec et non plus pour. Et donc, en effet, dans des diagnostics, dans des mises en place de stratégies, etc., je pense qu'on réussira, quelles que soient les pistes qu'on aura envie de creuser, si ça colle quelque part à des choix qui sont posés par les intéressés. Et si on arrive vraiment à recréer de nouvelles solidarités qui sont autres que les solidarités qui se connaissent, qui sont des solidarités de liens, disons, familiales. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une dynamique de grand individualisme où il est très très difficile d'aller aider le voisin, et quand on va aider le voisin, il faut encore faire attention parce que ça éveille beaucoup d'inquiétudes même du voisin. Donc tiens, qu'est-ce qui fait qu'on a si difficile d'accepter, d'aller demander si on a besoin d'aide, etc. Vraiment repenser les solidarités, mais en créant du lien et en redonnant la parole à tout le monde.
Alors évidemment, c'est un large débat, c'est une large question dont on reviendra évidemment là-dessus, et notamment lors de votre journée d'études qui aura lieu au printemps prochain. Mais la question en attendant du financement des maisons de repos fera déjà l'objet d'un colloque organisé par le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg. Alors ça a lieu à Bertry le vendredi 25 septembre de 8h30 à 15h30 pour être précis. Un colloque qui s'inscrit d'ailleurs dans une campagne plus générale du CAL sur le vieillissement de la population. Et donc si cette thématique vous intéresse, je vous invite à retrouver toutes les informations sur le site internet du Centre d'action laïque laïcité.be. Alors merci à nos trois invités pour leur éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Bonne soirée, au revoir. United Nations.